Analyse F1, l'actualité comme vous ne l'avez jamais écoutée. Salut à tous et bienvenue dans un podcast d'Analyse F1, c'est Julien et je suis très heureux de vous le présenter aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qu'il ne fallait pas manquer aux États-Unis en 2016, le fameux Grand Prix d'Austin, un rendez-vous maintenant incontournable hein, du calendrier de la F1, avec un très bon circuit, des spectateurs présents, bref, tout ce qu'il faut pour nous donner envie de regarder ce Grand Prix, surtout le circuit d'ailleurs, le circuit est vraiment pas mal. Et voilà, et cette course malheureusement n'a pas trop rendu hommage à la qualité du tracé, puisqu'elle n'a pas été très animée, et c'est d'ailleurs le premier point que je veux aborder. En effet, malheureusement, pas trop d'action durant cette course, et pourtant elle aurait pu l'être. Elle aurait pu l'être sur la deuxième partie de course avec la lutte pour le podium. Entre Raikkonen et Ricciardo qui allait débuter, puisque Raikkonen a initié la bataille avec son dernier arrêt au stand, et ça aurait pu provoquer celui de Ricciardo, il aurait pu y avoir une bataille, comme finalement en termes de rythme Red Bull et Ferrari ne semblaient pas si éloignés que ça. Puis ouais, ça dépendait des stratégies et tout, mais même si Ferrari reste en dessous en ce moment, mais en rythme de course, il semblait pas très loin quand même. Donc, il y avait moyen qu'il y ait une lutte entre les deux, mais bon, on a été privé de cette lutte puisque Raikkonen a dû abandonner suite à un incident mécanique juste après l'arrêt au stand d'ailleurs, avec un écrou. Il y a eu un problème avec l'écrou durant l'arrêt au stand, et donc Arriva Bene a apporté des précisions suite au Grand Prix en disant que c'était ni une erreur humaine, donc au moment du changement de pneu, ni un souci à réparer sur le système de fixation de la roue, c'est juste de la malchance, donc juste un souci mécanique avec un écrou. C'est vraiment bête hein, quand même comme souci, et je comprends la frustration d'Iceman quand il est sorti de sa monoplace, parce que là il y avait moyen d'aller chercher un podium pour Ferrari, et il n'en a pas eu l'occasion. Du coup, ben les positions, la première position était figée, la deuxième aussi, la troisième aussi, et il y avait qu'une lutte après. Pour la cinquième place, j'y reviendrai plus tard. Mais avant de revenir sur cette lutte pour la cinquième place, revenons un peu sur le pilote qui a fini en tête et les pilotes qui ont fini premier et deuxième. Vous l'avez deviné, je parle évidemment des pilotes Mercedes. Les pilotes Mercedes avec Hamilton qui a remporté ce Grand Prix. Il est au pied du mur et il a su gérer son stress, gérer la pression et gagner cette course. Et Hamilton était vraiment stressé puisque il l'a dit dans de nombreuses interviews, beaucoup d'interviews où il a dit que pendant la course il était à l'affût du moindre bruit suspect, que même avant la course il disait maintenant il a peur que ça arrive parce que là il a plus le choix, il a plus de chance là, la mécanique est obligée d'être nickel tout le long. Et oui. Mais là, pendant la course, il était à l'affût, imaginez Hamilton, à l'affût du moindre bruit suspect pour repérer une casse, alors que ça ne sert à rien de faire ça, mais juste la peur d'abandonner, ce stress qui l'a fait, qui aurait pu le déconcentrer quoi dans son pilotage, mais finalement non, il ne s'est pas déconcentré, il a pu piloter de manière tout à fait convenable, hein, de manière très bien, vu qu'il a remporté la course, il a tout de suite fait l'écart en début de course, profitant du fait que Rosberg n'a pas fait un si bon départ que ça. Enfin, son départ, il s'est bien élancé, mais ensuite, il était trop concentré sur Hamilton devant, et puis finalement, c'est venu derrière le danger, avec Ricciardo qui a tenté le dépassement sur Rosberg, et qui l'a passé d'ailleurs, et du coup, ben Hamilton a pu être un peu tranquille, même si c'était serré durant le premier relais entre les 5-6 premiers pilotes, mais finalement, après la première salve d'arrêt, Hamilton a pu faire le trou, mettre sa petite dizaine de secondes en place, et ensuite c'était fini. Il avait plus qu'à gérer, il l'a fait comme il le fait à chaque fois qu'il est en tête. Il fait rarement d'erreurs quand il est en tête, Hamilton. Et donc, la victoire a été à sa portée. Donc finalement, la pression qu'il a eue, c'était peut-être même une pression positive, hein. Les champions du monde, la pression, ils la prennent, mais ça leur sert de catalyseur d'adrénaline, et du coup, ils peuvent piloter même encore mieux, être encore plus concentrés. On ne sait pas, mais en tout cas, bon, c'était pas un sentiment positif pour Hamilton d'avoir peur de ça, c'est clair. Même s'il sait qu'il le répète d'ailleurs que Mercedes fait du super boulot pour lui donner une super voiture et les moteurs sont top, quoi, mais bon, ce souci de fiabilité, enfin, ces soucis à répétition cette saison le font un peu être parano à propos de futurs soucis. Et bon, ça peut se comprendre, ça peut se comprendre, surtout que là, il a plus le choix. Il a plus le choix, il doit gagner quasi tous les grands prix. Et espérer que Rosberg se plante à un moment où est un souci mécanique, tout simplement. Concernant les départs, parce qu'Hamilton, ouais, Hamilton et les départs, c'est aussi ça, c'est surtout ça, hein, qui lui fait perdre le championnat, je pense. Avant de trouver des raisons, on va dire, aléatoires, des raisons mécaniques, c'est surtout des raisons du pilote également. C'est comme quand on analyse un match de foot, je déteste ceux qui disent oh ben c'est à cause du penalty non sifflé ou c'est à cause du penalty sifflé qui aurait pas dû être sifflé. Oui, mais dans le reste du match, qu'est-ce que l'équipe a proposé? Et oui, si elle avait mieux joué, elle aurait pu marquer des buts. Et non, c'est qu'elle était en dessous également, elle n'était pas assez forte. Ben là, c'est pareil. Hamilton, s'il perd le titre, certes, les ennuis mécaniques auront joué un rôle, mais s'il avait fait des départs convenables. Des fois, il a fait vraiment des mauvais départs cette saison, et beaucoup quand même, 4 ou 5 mauvais. C'est trop dans une saison quand même. C'est un Grand Prix sur 4 ou un Grand Prix sur 5 avec des mauvais départs. Non, ça le fait pas. Surtout avec un Rosberg à côté qui amasse des points suite à ça. Donc ça va être compliqué. Donc ouais, si jamais il n'a pas le titre, Hamilton, c'est les départs, hein, c'est les départs tout simplement, hein, qui l'auront mis dedans. Mais concernant les départs, il a enfin travaillé ce point-là. Il a longuement travaillé ce point-là avant de venir à Austin. Il les a travaillés également en essai libre. Bref, il était vraiment totalement focalisé sur son Grand Prix, sur le Grand Prix des États-Unis. Il ne s'est pas éparpillé ni rien. Et, de toute façon, c'est bête, mais Hamilton, il doit être fatigué de devoir rappeler qu'à chaque fois, quand il est au boulot, c'est-à-dire quand il est dans la F1, dans la course automobile, ce qu'il fait depuis qu'il est tout petit, il est à chaque fois concentré dessus à fond. C'est pas sa vie à côté qui va venir le déconcentrer. Donc voilà. C'est bien qu'il se soit remis en question, Hamilton, qu'il soit remis en question. Ça montre qu'il admet son erreur également. Mais c'est tard quand même dans la saison. Il aurait pu le faire plus tôt. Et voilà. Mais bon, c'était nécessaire et il l'a fait. Est-ce que ça suffira pour être titré? On verra. On verra. En tout cas, malheureusement pour lui, Rosberg a fait deuxième. Il a pu passer Ricciardo durant la course. Et du coup, l'écart entre les deux pilotes est toujours supérieur à 25 points. 26 points exactement. Donc plus d'une victoire d'écart, ce qui signifie que Rosberg peut clore le championnat dès ce week-end au Mexique si jamais Hamilton ne termine pas dans les points. Donc en gros, si jamais Hamilton connaît un abandon, quoi, ou qu'il y a des circonstances de course assez folles. Mais ouais, Rosberg peut vraiment clore le championnat. Donc là, on arrive dans des. On est complètement dans une phase du championnat où Hamilton n'a plus trop la main sur son championnat. Il peut faire tout ce qu'il veut, mais ensuite, si Rosberg est au taquet derrière, ben ça suffira pas pour Hamilton, même s'il aura fait une très belle fin de saison. Mais en tout cas, Hamilton, voilà, et aussi, il prend la pression de cette fin de saison où il doit prendre des risques, absolument. Là, il doit prendre tous les risques pour gagner. Il n'a rien à perdre, Hamilton, là, on est d'accord. Il doit vraiment prendre tous les risques. Si jamais il y a Rosberg qui part mieux ou quoi, ou qui se retrouve en tête pendant la course, Hamilton, il doit taper dans sa gomme. Il doit prendre le risque de l'user, sa gomme, ou de la détruire. Plus vite, quitte à après finir seulement troisième. Mais il doit prendre le risque, par exemple, pour revenir sur Rosberg et avoir une chance de le dépasser. Et un dépassement kamikaze, il doit le tenter. C'est comme ça, à mon avis. Enfin, kamikaze. Il y a kamikaze et kamikaze, mais il n'a rien à perdre. Il doit tout tenter. Et pour ça, je pense que on risque de voir des choses folles dans un des trois grands prix de la saison qui reste là. Une ou des choses folles, on risque d'en voir. Parce que vraiment, Hamilton, il est dans cette position où vraiment, il y a pas à réfléchir, c'est 100% attaque, tout simplement. 100% attaque. C'est quelque part un paradoxe, c'est-à-dire que Hamilton, il doit quand même être prudent pour finir dans les points et rester à portée de Rosberg jusqu'à la fin du championnat. Mais pour gagner le championnat, il doit vraiment gagner des courses. Donc il n'a pas le choix, il doit prendre des risques. Et c'est formidable pour le spectacle et pour le suspense de cette fin de saison. Et là, je m'en fous des pisse froids qui diront que « Ah, oh, mais c'est toujours les deux pilotes Mercedes. » Ouais, mais au moins, il y en a deux. Souvenez-vous, période Red Bull, il y a Vettel, c'est tout. Période Ferrari, début des années 2000, il y a Schumacher, et c'est tout. Et on peut retrouver des exemples à l'appel, même avant, dans je sais plus quelles années, même les années Senna, l'année Senna 91, ben son coéquipier, il est pas là, hein, ça c'est clair. 92, il y a Mansell, et puis derrière, voilà, il n'y a pas son coéquipier. Il y avait Senna également, mais bon, la Williams c'était au-dessus. Ah, il y a plein d'exemples comme ça qu'on peut trouver. Donc voilà, c'est déjà bien qu'on en ait deux. Il n'y a pas besoin qu'il y en ait 10 000. Deux, ça peut suffire pour nous offrir du spectacle. Après, voilà, c'est dommage que cette saison il y ait eu des mauvais départs, surtout du côté d'Hamilton. Il y en a eu quand même un peu du côté de Rosberg, mais c'est dommage qu'on ait eu des choses qui nous aient privés d'une lutte directe entre les deux. Pendant cette course, il y a un dépassement qui m'a, comment dire, qui m'a interloqué, qui m'a vraiment fait plaisir. C'est le dépassement d'Alonso sur Massa. Alors, peut-être que certains d'entre vous êtes surpris de mes propos, mais il ne faut pas, parce que selon moi, le dépassement d'Alonso sur Massa était un dépassement tout à fait correct, malgré qu'il se soit touché. Et je vais l'expliquer. J'expliquais ce dépassement. Alors, Alonso, il voit une ouverture. Tout simplement, il va plonger à l'intérieur. En plus, il plonge pas au dernier moment, hein. Il plonge, hein, mais pas au dernier moment. Il se retrouve à l'intérieur côte à côte avec Massa pendant une bonne seconde, pas juste pendant une fraction de seconde, juste au moment de tourner. Avant de tourner, regardez, enfin, avant d'aller à la corde du virage, bien avant d'aller à la corde du virage, là. Et il était côte à côte avec Massa. À partir de là, comme il était à l'intérieur, Alonso, là le dépassement était fait. Hein. Massa, il pouvait pas insister à l'extérieur comme ça. Et du coup, il aurait mieux fait de lâcher prise au lieu d'insister, de faire la touchette, d'occasionner une crevaison et de se ruiner toute chance de finir cinquième ou sixième Massa. Et pour plusieurs raisons, parce que d'une part, s'il avait lâché prise Massa quand Alonso était à l'intérieur, il aurait évité la touchette. Et ensuite, il aurait pu tenter de décroiser Alonso à la réaccélération. Parce qu'en plus, Massa, dans sa colonne sur Motorsport, là, j'ai pas aimé vraiment. D'habitude, j'aime bien ses colonnes, il explique bien, mais là, c'est vraiment quelqu'un, d'ailleurs, il le dit, il a un goût sucré, un goût amer dans la bouche. Ben là, ça s'est vu, le goût amer durant tout l'article. On voit que c'est un article, ouais, il se défoule bien sur Alonso. Enfin, on voit qu'il est très déçu, Massa, de ce qui s'est passé et du dépassement d'Alonso. Mais pour lui, c'était un dépassement qui aurait mérité pénalité pour Alonso. Idem le dépassement d'Alonso sur Sainz, apparemment, pour Massa. Moi, je ne trouve pas. Je ne trouve pas. Si Massa avait fait ce que je viens de dire là, il avait lâché prise, eh bien, Alonso tirait peut-être très large. En plus, Massa, il le dit dans sa colonne. C'est ça qui est fou. Il dit, Alonso, si j'avais pas été là, eh bien, il aurait tiré large. Il aurait été obligé d'aller en dehors des limites de la piste, ou en tout cas, bien à l'extérieur. D'accord? Mais dans ce cas, pourquoi tu l'as aidé? Pourquoi t'as essayé de tourner à gauche? Bon, la réponse, c'est que Massa, ne croyait pas qu'Alonso pouvait tenter un dépassement de là. Il l'a vu très loin, il le pensait trop loin pour tenter ça. Mais là, c'est une erreur, on va dire, de Massa, d'avoir vu ça, et une erreur de vision des distances. Parce que oui, à cette distance-là, oui, on peut tenter un dépassement, et sans que ce soit un dépassement kamikaze, c'en était pas un, là, celui d'Alonso, c'était pas au dernier moment, hein, vraiment pas. Et du coup, voilà, Massa, s'il avait était plus pertinent dans sa réflexion à ce moment-là. Bon, après, il faut dire qu'on est à la fin de course, les pilotes sont un peu fatigués. Donc on n'a pas forcément toutes les idées en place. Mais là, quand même, quelques jours après le Grand Prix, Massa est toujours énervé à propos d'Alonso. C'est quand même fort. C'est quand même fort et c'est quand même, voilà, bon. L'ego qui parle surtout, je pense. L'ego qui parle. Et voilà, Massa était peu inspiré hein, pendant ce Grand Prix, comparé à un Alonso qui était vraiment en état de grâce, encore une fois. Il a terminé cinquième hein, quand même Alonso, hein, il faut quand même le noter. Et il fait du très bon travail comme quasi à toutes les courses. Hein. Et bon déjà Massa était un peu inspiré dans ce Grand Prix. Déjà il parvient pas à passer Sainz sur la Toro Rosso alors qu'il était à portée. Et ensuite la défense sur Alonso ben est mauvaise. Hein. Ça lui a coûté toute chance de finir sixième ou voire cinquième. Et voilà. Et il en fallait pas plus à Alonso pour passer. Mais ouais, Massa, s'il avait lâché prise Alonso, admettons que les dires de Massa soient vrais et qu'Alonso il tire large, bah après Massa il décroisait, il passait facilement à la réaccélération, il y avait pas de souci. Donc voilà, selon moi c'est une erreur de Massa. Il y a pas trop à noter parce qu'Alonso qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Pas essayer de dépasser alors qu'il y avait de la place? Non non. Encore si ça avait été plus tard, admettons. Alonso, il tente son dépassement plus tard et du coup, il se retrouve côte à côte avec Massa vraiment au moment où Massa va prendre la corde. Là, ok, là, c'est hyper kamikaze. Le mec se jette en gros dans la corde. Là, il se jetait pas dans la corde, il s'est jeté à l'intérieur, mais c'était avant la corde. S'il s'était jeté dans la corde comme ça, ok, là, c'est kamikaze, sachant qu'un pilote est en train de tourner. Ok, mais là, c'était pas le cas. Donc, là, je vois pas le souci sur ce dépassement qui, selon moi, est très joli. Qui dit Grand Prix des États-Unis dit écurie américaine et dit As F1 Team. Donc il faut parler un peu de As F1 Team qui connaissait un Grand Prix historique quand même. Une écurie américaine sur un Grand Prix américain, on n'avait pas vu ça depuis quand même une quarantaine d'années peut-être. Et un pilote d'une écurie américaine qui marque un point sur un Grand Prix américain, on n'avait pas vu ça également depuis très très longtemps. Et donc Grosjean a réussi cette performance et cette belle performance puisqu'il avait un peu foiré ses qualifs. Il était 17e au qualif, il n'avait pas passé la Q1 et il finit 10e finalement, 10e avec notamment 4 dépassements, 4 beaux dépassements dans les premiers tours, dans les 7 premiers tours je crois. Et bah après il a fait le boulot pour remonter 10e. Pourtant ce week-end la Haas n'était pas trop dans le rythme. Hein. Surtout le rythme sur un tour était pas, c'était pas ça, hein, c'était vraiment pas ça. Mais finalement, pour remonter à 10e, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Et Grosjean, il fait vraiment du très bon boulot pour As. Günther Steiner a encore fait les louanges du pilote français en disant que il aurait pas pu mieux piloter l'As en partant de cette 17e place. Et voilà, et Grosjean est régulier dans ses performances, dans ses bonnes performances. Et ça, depuis 2013. Depuis 2013, il est régulier comme ça. Alors certes, il connaît quelques périodes de moins bien, comme je sais plus, je crois en fin d'année dernière ou autre, mais c'est des petites périodes, ça dure jamais plus de deux grands prix, quoi, deux, trois grands prix. Et après c'est reparti, mais la majorité du temps, il est à bloc et il fait le boulot. Donc voilà, il y a de l'espoir du coup que Grosjean et Haas puissent encore plus montrer en 2017, parce qu'on est en fin de saison. On est en fin de saison et Haas, qui est une nouvelle écurie, lutte pour les points en fin de saison. Ça veut dire que Haas, déjà en début de saison, était bien et ensuite a pu quand même développer un peu la monoplace pour rester dans la lutte autour entre je sais pas, entre la 8e et la 12-13e place. Alors que c'est pas le cas de toutes les écuries, c'est pas le cas de toutes les écuries. Donc c'est bien pour cette nouvelle écurie qui montre encore une fois que son modèle est un très bon modèle pour rentrer en F1, un modèle solide. Et ben j'espère qu'ils vont pouvoir se servir de l'expérience parce que cette saison ils ont acquis pas mal d'expérience, pas mal de données sur les Grands Prix qu'ils n'avaient pas avant, et pour pouvoir après s'en servir pour la saison prochaine et pour s'en servir également pour la nouvelle monoplace As. Et voilà, Dallara va pouvoir faire le boulot comme il faut, je pense, notamment As aussi, Ferrari aussi. Bref, tout ce petit beau monde va pouvoir concocter une monoplace 2017 peut-être assez efficace. Et ça, j'attends de voir. Ça pourrait être une des bonnes surprises de 2017. Mais je l'avais dit aussi pour 2016, mais encore plus pour 2017 là, parce que vu qu'en 2016, ils ont fait du bon boulot, et qu'ils n'étaient pas en fond de grille, eh bien, pour 2017, on peut avoir d'espoir. On peut avoir d'espoir. C'est une écurie sérieuse, et ça, c'est bien. D'entrer en étant sérieux, en plus, ça fait une bonne pub pour la marque As Automotive, là. Technologie, donc Guineas doit être très content. Et en plus, l'écurie As parle très peu de 2017. Alors soit c'est mauvais signe, mais bon, je pense qu'il pourrait être à surveiller parce qu'on en entend peu parler, mais pourquoi pas. Pourquoi pas As? Mais bon, cela étant, beaucoup d'autres écuries également pourraient être la surprise de 2017. Hein. Mais c'est juste que voilà, là j'énonce les raisons qui font que As pourrait l'être. Après, il y a d'autres raisons pour les autres écuries, évidemment. D'autres écuries, comme par exemple Renault, qui pourrait renaître de ses cendres, par exemple. Pourquoi pas en 2017, hein, Renault, hein, avec, on va dire, déjà plus de personnel dans l'usine, même si le recrutement va se poursuivre en 2017, donc on verra pas, je pense, une monoplace Renault lutter pour les podiums et la victoire en 2017, mais lutter plus régulièrement pour les points, peut-être plus attendre 2018. 2018, par contre, et là, ils pourront bénéficier du recrutement qu'ils auront fait, recrutement technique, hein, à l'usine et tout, en 2017, en profiter pour la monoplace de 2018. Je pense que ça sera plutôt ça. Mais en tout cas, Renault nous a offert pendant le Grand Prix des États-Unis de belles luttes. Une grosse passe d'armes entre ces deux pilotes, qui sont Kevin Magnussen et Julian Palmer, pour rappel, qui a commencé au tour 2. Alors au tour 2, on l'a pas vu, je crois, à la télé, mais la F1 a mis à la disposition de tout le monde sur Internet, sur formula1.com et sur les réseaux sociaux également, la vidéo avec le point de vue en caméra embarquée de Sergio Pérez de cette lutte qui était juste devant les yeux du Mexicain entre Magnussen et Palmer au tour 2. Donc je vais vous la raconter du coup. Après, je vous invite à aller voir cette vidéo. C'est vraiment une très belle lutte, hein. Franchement, déçu qu'on ne l'ait pas vue, mais bon, c'est normal dans les premiers tours, on regarde surtout ce qui se passe devant. Alors ça débute dans la ligne droite de retour, la ligne droite arrière. Magnussen prend l'aspiration de Palmer. Donc là, ils n'ont pas encore le DRS, hein, on est qu'au tour 2. Magnussen prend l'aspiration de Palmer qui défend l'intérieur. Magnussen essaye alors de le décroiser à la suite du gros freinage, du gros virage, mais il ne peut pas. Alors Magnussen, il essaye de voir à l'intérieur du prochain virage s'il y a moyen, mais Palmer avait déjà fermé l'intérieur du prochain virage. Alors Magnussen, il se donne de l'angle et il va à l'extérieur pour prendre ce virage et pour ensuite mieux ressortir. C'est ce qu'il fait. Et ensuite, il va tenter l'intérieur là où, d'ailleurs, plus tard, Alonso aura effectué son dépassement sur Massa. Et donc Magnussen réussit ce dépassement sur Palmer au même endroit. Il a été intelligent, Magnussen, c'est quand il a vu que Palmer avait fermé l'intérieur du virage d'avant. Du coup, Magnussen, il s'est donné de l'air, il s'est tout de suite mis à l'extérieur pour avoir plus d'accélération après et retenter un dépassement dans le fameux virage. Le virage serré là qui mène ensuite sur les trois courbes, les trois virages, le triple droit rapide. Donc voilà, du coup, Magnussen est à l'intérieur. Palmer essaye de décroiser. Palmer qui fait pas l'erreur de Massa d'ailleurs, parce que Palmer essaye de décroiser. Du coup, les deux se retrouvent côte à côte. Palmer est à l'extérieur du triple droit. Pendant quasi tout le triple droit, ils sont côte à côte comme ça. Magnussen, il est à l'intérieur du triple droit rapide. Palmer, il essaye à l'extérieur quand même de conserver assez de traction et de vitesse. Mais vraiment, avec le plein d'essence là en début de course, c'est très compliqué de rester comme ça dans cette trajectoire. Et puis, il faut pas risquer trop l'incident avec le coéquipier. Du coup, c'est compliqué. Il est obligé de laisser passer Magnussen devant, qui avait plus de vitesse quand même, qui avait réussi à prendre plus de vitesse dans ce triple droit. Il a mieux le négocier. Mais ensuite, Palmer, il fait une erreur. C'est de vouloir trop insister. Il incite dans l'avant-dernier virage, où il se décale, mais il fait pas attention à ce qu'il y a derrière. Et du coup, il sort mal de l'avant-dernier virage. Et Pérez en profite. Pérez était derrière. Il attendait la moindre opportunité de passer les deux. Ben, il passera au moins Palmer pour commencer. Au dernier virage, il a pu prendre l'aspiration entre les deux derniers virages et lui faire le freinage à l'intérieur du dernier virage et passer Palmer. Voilà pour cette lutte. Très belle lutte, hein, en début de course entre les deux pilotes Renault. Et plus tard, il y a eu d'autres batailles entre les deux pilotes Renault, mais généralement, ils n'étaient pas sur la même stratégie, je crois. Donc, c'était moins intéressant. Et puis, il y avait le DRS, donc c'était encore moins intéressant. Mais voilà, il y a eu quand même pas mal de luttes entre les deux. Au final, c'est Magnussen, hein, qui a fini devant Palmer, comme souvent. 12e, Magnussen, Palmer 13e. La Renault qui peut guère faire mieux que ça, malheureusement. Et donc, pourquoi je vous raconte cette bataille qui se déroulait dans les tréfonds du classement? Ben, pour moi, elle est doublement intéressante. D'une part, parce qu'elle était belle à voir. Quand on est fan de sport auto et de bataille entre pilotes, c'est beau à voir comme duel. Et ensuite, c'est un duel dont la beauté est magnifiée par le fait que il y a une pression énorme sur les épaules des deux pilotes parce qu'aucun des deux n'est confirmé chez Renault, alors qu'il y a un nouveau venu, Nico Hülkenberg, qui lui est confirmé chez Renault. Donc il reste un baquet pour deux pilotes, voire plus, parce qu'ils savent même pas si se trouve il n'y en aura aucun des deux qui sera chez Renault la saison prochaine, mais ils doivent quand même montrer à l'écurie française, aux constructeurs français, qu'ils méritent de rester dans la catégorie reine. Et du coup, ben ils se font aucun cadeau entre coéquipiers, ils donnent tout. Et c'est bien parce qu'en plus on voit Palmer depuis quelques courses qui est plus rapide, qui donne plus de fil à retordre à Magnussen, notamment en qualif, mais aussi en course. Je crois qu'il a aussi fini devant Magnussen une ou deux fois en course dernièrement. Mais voilà, globalement, c'est quand même Magnussen qui domine, hein, il faut le dire. Mais Palmer, voilà, il remonte un peu dans mon estime, on va dire. Et il est meilleur en cette deuxième partie de saison, en cette fin de saison, il faut bien le dire. En même temps, c'est sa première saison, il est rookie, hein, donc on lui demande beaucoup. Donc c'est bien, c'est ce qu'on demande à un rookie, hein, c'est de faire une première partie de saison, bon, où on apprend surtout. Et puis après, une deuxième partie de saison meilleure, donc sa première saison de Formule 1, Palmer. C'est pas exceptionnel, mais c'est pas raté non plus, hein. On peut pas dire que c'est complètement raté non plus. Il est dans un rythme. Après, ce qui est raté, c'est la Hongrie, quoi. Une grosse erreur qu'il ne fallait pas faire, et même si c'est un rookie, voilà, on va dire que c'est une erreur de débutant, mais voilà, du coup, on l'affuble du qualificatif débutant, au lieu de l'appeler comme tous les autres pilotes, et c'est bien triste. Alors que Magnussen, voilà, Magnussen a fait le boulot, hein, cette saison. Magnussen a fait le boulot. Donc voilà, en tout cas c'est triste pour ces deux pilotes qu'ils aient autant de pression comme ça, mais bon c'est comme ça. Ils sont chez un constructeur exigeant qui veut revenir dans les devants assez vite, enfin dans les prochaines années en tout cas. Donc ils ont besoin de top pilotes, enfin des meilleurs pilotes possibles. Alors du coup là pour la fin de saison, il va falloir être intelligent entre Magnussen et Palmer, c'est-à-dire à la fois lutter entre qu'ils fassent leur lutte et qu'ils se fassent aucun cadeau, mais si jamais il y a un point à marquer. Pour Renault, il va falloir qu'ils soient intelligents, quoi, et qu'ils abandonnent leur lutte si jamais ça peut permettre de faire marquer un point aux constructeurs français. C'est là aussi que Renault pourra voir s'ils ont affaire à deux pilotes intelligents ou non. Au contraire des deux pilotes sober, rappelez-vous, Monaco 2016. Magnifique, les deux pilotes sober. Ils ont tout donné, là. Avec des déclarations également aussi intelligentes que leur pilotage. Bref, c'était la petite parenthèse humoristique. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Je vous donne rendez-vous au prochain. Peut-être sur Liberty Media, peut-être sur un transfert, ou peut-être le ce qu'il ne fallait pas manquer au Brésil, on verra. Et en tout cas, en attendant. Ben non, il y a ce qu'il ne fallait pas manquer au Mexique, pardon, mais il y a surtout un podcast avant ça. Et oui, là, je vais publier à la suite de celui-ci un podcast très important pour le futur d'Analyse F1. Je vous invite vraiment tous, enfin en particulier ceux qui suivent Analyse F1 régulièrement, à l'écouter parce que Analyse F1 va changer. De format va connaître une sorte d'évolution. Voilà, je n'en dis pas plus, j'en dis assez dans le prochain podcast. Ciao tout le monde, à bientôt et vivons notre passion.